Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, avant de vous adresser quelques mots d'exhortation, je voudrais d'abord dissiper quelques malentendus, et d'abord au sujet de cette réunion elle-même. Vous pouvez voir par la simplicité de la cérémonie que nous faisons que nous n'avions point préparé une cérémonie qui aurait réuni une foule comme celle qui se trouve dans cette salle. Nous avions pensé que nous aurions célébré la Sainte Messe le 29 août, comme il était convenu, au milieu de quelques centaines de fidèles de la région de Lille, comme je le fais fréquemment en France, en Europe et même en Amérique, sans histoire. Et voici que tout à coup, cette date du 29 août est devenue, par la presse, par la radio, par la télévision, comme une espèce de manifestation qui ressemblerait, dit-on, à un défi. Eh bien non, cette manifestation n'est pas un défi. Cette manifestation, c'est vous qui l'avez désirée, chers fidèles, chers frères, qui êtes venus ici de loin. Pourquoi ? Pour manifester votre foi catholique, pour manifester votre croyance, pour manifester votre désir de prier, de vous sanctifier comme l'ont fait vos pères dans la foi, comme l'ont fait des générations avant vous. Voilà quel est l'objet véritable de cette cérémonie pendant laquelle nous désirons prier, prier de tout notre cœur, adorer notre Seigneur Jésus-Christ qui descendra dans quelques instants sur cet autel et qui renouvellera le sacrifice de la croix dont nous avons tant besoin. Je voudrais également dissiper un autre malentendu. Et là, je m'excuse, mais je suis obligé de le dire, ce n'est pas moi qui me suis appelé le chef des traditionalistes. Vous savez qui l'a fait il y a peu de temps, dans des circonstances tout à fait solennelles et mémorables à Rome. On a dit que Mgr Lefebvre était le chef des traditionalistes. Je ne veux point être le chef des traditionalistes et je ne le suis point. Pourquoi ? Parce que je suis moi aussi un simple catholique, certes prêtre, certes évêque, mais qui suis dans les mêmes conditions dans lesquelles vous vous trouvez et qui ai les mêmes réactions devant la destruction de l'Église, devant la destruction de notre foi, devant les ruines qui s'accumulent devant nos yeux. Ayant eu la même réaction, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de former des prêtres, de former de vrais prêtres dont l'Église a besoin. Ces prêtres, je les ai formés dans une société, Saint-Pidis, qui a été reconnue par l'Église. Et je ne faisais que ce que tous les évêques ont fait pendant des siècles et des siècles. Je n'ai pas fait autre chose. Et ce que j'ai fait pendant 30 années de ma vie sacerdotale, ce qui m'a valu d'être évêque, ce qui m'a valu d'être délégué apostolique en Afrique, ce qui m'a valu d'être membre de la commission centrale préconciliaire, ce qui m'a valu d'être assistant au trône pontifical, que pouvais-je désirer comme preuve que Rome estimait que mon travail était un travail qui était profitable à l'Église et au bien des âmes. Voici que je fais la même chose. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années. Et voici que tout à coup, je suis suspens à divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je. Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense à divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais, à ce moment-là, enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe, comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie. On m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose, précisément, a changé dans l'Église. Et c'est à cela que je veux en venir. J'ajoute une petite parenthèse pour le cher Monseigneur Ducos Bourget qui est ici présent. Il m'a prié, et je le comprends très bien, de dire qu'il était absolument faux, qu'il ait été, lui, suspens à divinis, et qu'il ait été rayé de l'ordre de Malte. Il y a beaucoup d'inventions qui sont faites ainsi dans la presse et qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Comme on m'a dit aussi que j'allais aller à l'assemblée de Lourdes, alors des évêques de Lourdes, et que je n'ai jamais eu l'intention d'y aller. Mais nous devons justement retourner aux raisons qui nous font prendre cette attitude, oh, attitude extrêmement grave, je le reconnais, s'opposer aux autorités les plus grandes dans l'Église. Être suspens à divinis pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là, sinon pour des raisons excessivement graves? Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. La défense de notre foi, mais est-ce que les autorités qui se trouvent à Rome mettraient en péril notre foi? Je ne juge pas ces autorités, je dirais que je ne veux pas les juger personnellement. Je voudrais les juger comme le Saint-Office autrefois jugeait un livre et le mettait à l'index. Rome étudiait le livre, n'avait pas besoin de connaître la personne qui avait écrit ce livre. Mais il lui suffisait d'étudier ce qu'il y avait dans les propos qui étaient écrits. Et si ces propos étaient contraires à la doctrine de l'Église, ce livre était condamné et mis à l'index. Sans avoir besoin d'interpeller la personne, on a dit précisément au Concile, certains évêques se sont élevés contre cette procédure en disant « Il est inadmissible qu'on mette un livre à l'index alors qu'on n'a même pas entendu celui qui l'a écrit ». Mais on n'a pas besoin de mettre à l'index quelqu'un qui l'a écrit, de voir quelqu'un qui a écrit le livre, pourvu qu'on ait le texte en main de choses qui sont absolument contraires à la doctrine de l'Église. C'est le livre qui est condamné, parce que ses paroles sont contraires à la doctrine catholique. C'est donc de cette manière que nous devons juger les choses. Nous devons les juger par les faits. Comme l'a dit très bien notre Seigneur dans l'Évangile que nous lisions il y a peu de temps encore, et à propos précisément de ces loups qui sont couverts de peaux de brebis, il disait « Nous reconnaîtrons l'arbre à ses fruits ». Eh bien, les fruits sont devant nous. Les fruits nous sont évidents, ils sont clairs devant nos yeux. Ces fruits qu'ils viennent du Concile Vatican II et des réformes post-conciliaires sont des fruits amers, des fruits qui détruisent l'Église. Et lorsqu'on me dit « Mais ne touchez pas le Concile, dites les réformes post-conciliaires », alors je réponds « Comme le disent ceux qui font les réformes, ce n'est pas moi qui ai fait ces réformes. Ceux qui font ces réformes disent « Nous les faisons » au nom du Concile. Nous avons fait la réforme liturgique au nom du Concile. Nous avons fait la réforme des catéchismes au nom du Concile. Nous avons fait toutes les réformes au nom du Concile. Or, ce sont eux les autorités de l'Église. Ce sont eux qui interprètent par conséquent légitimement le Concile. Or, que s'est-il passé dans ce Concile? Mais nous pouvons le savoir facilement en lisant les livres de ceux qui ont précisément été les instruments de ce changement dans l'Église qui s'est opéré sous nos yeux. Lisez par exemple l'œcuménisme vu par un franc-maçon de Marsaudon. Lisez le livre du sénateur du Doubs, M. Prélot, « Le catholicisme libéral », écrit en 69, et il vous dira ce qu'est le concile, lui catholique libéral. Il le dit dans les premières pages de son livre. Nous avons lutté pendant un siècle et demi pour faire prévaloir nos opinions à l'intérieur de l'Église et nous n'y avons pas réussi. Enfin est venu Vatican II et nous avons triomphé. Désormais, les thèses et les principes du catholicisme libéral sont désormais définitivement acceptés et officiellement par la Sainte Église. Vous croyez que ce n'est pas un témoignage? Ce n'est pas moi qui le dis cela. Mais lui le dit en triomphant, lui le dit en se félicitant, nous le disons en pleurant. Car qu'ont voulu les catholiques libéraux pendant un siècle et demi? Marier l'Église et la Révolution, marier l'Église et la subversion, marier l'Église et les forces destructives de la société, de toute société, depuis la société familiale, la société civile, la société religieuse. Et ce mariage de l'Église, il est inscrit dans le Concile. Prenez le schéma Gaudium et Spes et vous y trouverez. Il faut marier les principes de l'Église avec les conceptions de l'homme moderne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut marier l'Église catholique, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, avec des principes qui sont contraires à cette Église, qui la minent, qui ont toujours été contre l'Église. Et c'est précisément ce mariage qui a été tenté dans le Concile par des hommes d'Église et non pas par l'Église, car jamais l'Église ne peut admettre une chose comme celle-là. Pendant un siècle et demi précisément, tous les souverains pontifs ont condamné ce catholicisme libéral, ont refusé ce mariage avec les idées de la Révolution. Ceux qui ont adoré la déesse raison, les papes n'ont jamais pu accepter des choses semblables. Et au nom de cette Révolution, les prêtres sont montrés sur l'échafaud, les religieuses ont été persécutées et également assassinées. Souvenez-vous des pontons de Nantes, où étaient amassés tous les prêtres fidèles et on les coulait au large. Voilà ce qu'a fait la Révolution. Eh bien, je vous dis, mes bien chers frères, ce qu'a fait la Révolution n'est rien à côté de ce qu'a fait le Concile Vatican II. Rien. Il lui a valu que les 30, les 40, les 50 000 prêtres qui ont abandonné leur soutane, qui ont abandonné leur serment fait devant Dieu, soient martyrisés, aillent à l'échafaud. Ils auraient au moins gagné leur âme. Et maintenant, ils risquent de la perdre. On nous dit que parmi ces pauvres prêtres mariés, beaucoup déjà sont divorcés. Beaucoup ont fait des demandes en nullité de mariage à Rome. Qu'est-ce que ça signifie, ces choses-là? Combien de religieuses, 20 000 religieuses aux États-Unis qui ont abandonné leur religion, qui ont abandonné leur congrégation religieuse et leur serment qu'elles avaient fait d'une manière perpétuelle, rompu ce lien qu'elles avaient avec notre Seigneur Jésus-Christ pour courir aussi au mariage. Il aurait mieux valu également qu'elles montent sur l'échafaud. Au moins, elles auraient témoigné de leur foi. C'est pourquoi la Révolution française, en définitive, vous savez, quand un ennemi fait des martyrs de l'Église, il fait ce que l'adage déjà disait dans les premiers siècles, Sanguis martyrum semen christianorum. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Et ils le savent bien, ceux qui persécutent les chrétiens. Ils ont peur d'en faire des martyrs, parce qu'ils savent que le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Mais on ne veut plus faire de martyrs. Ça a été le summum de la victoire du démon de détruire l'Église par obéissance. Détruire l'Église par obéissance. Nous la voyons détruite tous les jours sous nos yeux. Les séminaires vides, ce beau séminaire de Lille qui était rempli de séminaristes. Où sont les séminaristes? Qui sont-ils encore, ces séminaristes? Savent-ils qu'ils vont être prêtres? Savent-ils ce qu'ils vont faire quand ils vont être prêtres? Ah, c'est précisément parce que cette union voulue par ces catholiques libéraux, voulue entre l'Église et la Révolution et la subversion, est une union adultère de l'Église, adultère. Et de cette union adultère ne peuvent venir que des bâtards. Et qui sont ces bâtards? Ce sont nos rites. Le rite de la messe est un rite bâtard. Les sacrements sont des sacrements bâtards. Nous ne savons plus si ce sont des sacrements qui donnent la grâce ou qui ne la donnent pas. Nous ne savons plus si cette messe nous donne le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ou s'il ne la donne pas. Les prêtres qui sortent des séminaires ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils sont. C'était le cardinal Cincinnati qui à Rome disait « Pourquoi il n'y a plus de vocation ? Parce que l'Église ne sait plus ce qu'est un prêtre. » Alors, comment peut-elle former encore des prêtres si elle ne sait plus ce que c'est qu'un prêtre ? Les prêtres qui sortent des séminaires sont des prêtres bâtards. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont faits pour monter à l'autel, pour offrir le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et pour donner Jésus-Christ aux âmes et appeler les âmes à Jésus-Christ. Voilà ce qu'est un prêtre. Et nos jeunes qui sont ici le comprennent bien. Toute leur vie va être consacrée à cela, à aimer, à adorer, à servir notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, parce qu'ils y croient. À la présence de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Et cette union adultère de l'Église et de la Révolution se concrétise par le dialogue. L'Église, si elle a dialogué, c'est pour convertir. Notre Seigneur a dit « Allez, enseignez toutes les nations, convertissez-les ». Mais il n'a pas dit « Dialoguez avec elles pour ne pas les convertir ». Pour essayer de vous mettre sur le même pied qu'elle. L'erreur et la vérité ne sont pas compatibles. On doit chercher, si on a la charité pour les autres, comme vient de le dire l'Évangile, celui qui a la charité, c'est celui qui sert les autres. Eh bien, ceux qui ont la charité doivent donner notre Seigneur, doivent donner la richesse qu'ils ont aux autres, et non pas converser avec eux, dialoguer avec eux sur un pied d'égalité. La vérité et l'erreur ne sont pas sur un pied d'égalité. Ce serait mettre Dieu et le diable sur le même pied, puisque le diable est le père du mensonge, le père de l'erreur. Nous devons par conséquent être missionnaires. Nous devons prêcher l'Évangile, convertir les âmes à Jésus-Christ, et non pas dialoguer avec eux en essayant de prendre leurs principes. C'est ce qui nous a fait cette messe bâtarde et ces rites bâtards, parce qu'on a voulu dialoguer avec les protestants et que les protestants nous ont dit « Nous ne voulons pas de votre messe. Nous n'en voulons pas parce qu'elle comporte des choses qui sont incompatibles avec notre foi protestante. Alors changez cette messe et nous pourrons prier avec vous, nous pourrons faire des intercommunions, nous pourrons recevoir vos sacrements, vous pourrez venir dans nos églises, nous irons dans les vôtres et tout sera fini et nous aurons l'unité. Nous aurons l'unité dans la confusion, dans la bâtardise. Nous ne voulons pas de cela. Jamais l'Église ne l'a voulu. Nous aimons les protestants, nous voudrions les convertir. Mais c'est ne pas les aimer que de leur faire croire qu'ils ont la même religion que la religion catholique. C'est la même chose avec les francs-maçons. On veut maintenant dialoguer avec les francs-maçons. Non seulement dialoguer avec eux, mais permettre aux catholiques de faire partie de la franc-maçonnerie. Mais c'est encore un dialogue abominable. Nous savons parfaitement que ces personnes qui dirigent la franc-maçonnerie, au moins les responsables, sont foncièrement contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces messes noires qu'ils font, ces messes abominables, sacrilèges, horribles qu'ils font, sont les parodies de la messe de notre Seigneur. Et ils veulent des hosties consacrées, eux, pour faire ces messes noires. Ils savent que notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Eucharistie, car le diable le sait que notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Eucharistie. Ils ne veulent pas des hosties qui viennent de messe dont ils ne savent pas si le corps de notre Seigneur est là ou pas. Alors, dialoguer avec des gens qui veulent la mort de notre Seigneur Jésus-Christ une seconde fois, dans la personne de leur membre, dans la personne de l'Église, nous ne pouvons pas admettre ce dialogue. Nous savons ce qu'a valu le dialogue avec le diable, le premier dialogue d'Ève avec le diable. Elle nous a perdus, elle nous a tous mis dans l'état de péché, parce qu'elle a dialogué avec le diable. On ne dialogue pas avec le diable. Et on prêche avec ceux qui sont sous l'influence du diable, afin qu'ils se convertissent, afin qu'ils viennent à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne dialogue pas avec les communistes.
Heureusement que les chrétiens du Nord ne sont pas d'accord avec vous.
On dialogue avec les personnes, mais on ne dialogue pas avec l'erreur. Si les armées qui sont prêtes, si un jour elles désiraient passer le rideau de fer, si jamais il y avait une voie de majorité pour que ces armées déferlent sur nos pays en 5 jours... Eh bien, chers frères, ne soyez pas émus, laissons ceux qui ne comprennent pas les choses comme nous, mais demandons au bon Dieu que de leur donner la lumière. Mais précisément pourquoi sommes-nous d'une manière vraiment ferme et résolue de ne pas accepter cette union adultère de l'Église avec la Révolution? Parce que nous affirmons la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Pierre a-t-il été fait Pierre? Rappelez-vous de l'Évangile. Pierre est devenu Pierre parce qu'il a professé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les apôtres ont professé aussi cette foi publiquement après la Pentecôte. Et on les a poursuivis immédiatement. Les princes des prêtres leur ont dit, ne parlez plus de ce nom, nous ne voulons plus entendre ce nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres ont dit, non post sumus, nous ne pouvons pas ne pas parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre roi. Mais vous me direz, mais est-ce possible que vous semblez accuser Rome de ne pas croire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Le libéralisme a toujours deux faces. Il affirme la vérité, et qu'il prétend être l'hypothèse, la thèse, et ensuite dans la réalité, dans la pratique, dans l'hypothèse, comme il dit, il agit comme les ennemis avec les principes des ennemis de l'Église. De telle manière qu'on est toujours dans l'incohérence. Toujours dans l'incohérence. Eh bien, que veut dire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est que notre Seigneur est la seule personne au monde, le seul être humain au monde qui a pu dire « Je suis Dieu ». Et par le fait même qu'il a pu dire « Je suis Dieu », il était le seul sauveur de l'humanité, il était le seul prêtre de l'humanité et il était le seul roi de l'humanité. Par sa nature, non pas par privilège, non pas par titre, par sa propre nature, parce qu'il était fils de Dieu. Or maintenant, que dit-on? Il n'y a pas seulement de salut en Jésus-Christ. Il y a du salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas seulement de sacerdoce en notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les fidèles sont des prêtres. Tout le monde est prêtre. Alors qu'il faut participer sacramentellement au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir offrir le sacrifice de la messe. Deuxième erreur. Enfin, on ne veut plus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, sous prétexte qu'il n'est pas possible. Cela, je l'ai entendu de la bouche du nonce de Berne, je l'ai entendu de la bouche de l'envoyé du Vatican, le père Danis, ancien recteur de l'université grégorienne, qui est venu me demander, au nom du Saint-Siège, de ne pas faire les ordinations du 29 juin. Il était le 27 juin à Flavigny, lorsque je prêchais la retraite aux séminaristes. Et lorsqu'il m'a dit, « Pourquoi êtes-vous contre le Concile ?» Mais enfin, est-il possible d'accepter le Concile, alors qu'à ce nom, au nom du Concile, vous dites qu'il faut détruire tous les États catholiques, il ne faut plus d'États catholiques, donc plus d'États sur lesquels règne notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus possible. Que ce ne soit plus possible, autre chose que nous prenions ça comme principe, et que par conséquent, nous ne recherchions plus ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous disons tous les jours dans notre Père? Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est que ce règne? Tout à l'heure, vous avez chanté dans le Gloria, « Tu solus dominus, tu solus altissimus, Jésus Christe. Vous êtes le seul Très-Haut, vous êtes le seul Seigneur. » Nous le chanterions, et puis dès que nous serions sortis, nous disons, « Ah non, il ne faut plus que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nous. » Mais enfin, vivons-nous dans les logis? Sommes-nous chrétiens ou non? Sommes-nous catholiques ou non? Et il n'y aura de paix sur cette terre que dans le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Les États se débattent tous les jours, vous avez des pages et des pages dans les journaux, à la télévision, à la radio, encore maintenant avec le changement du Premier ministre. Qu'allons-nous faire pour que la situation économique se redresse? Qu'allons-nous faire pour que l'argent revienne? Qu'allons-nous faire pour que les industries soient prospères, etc.? Tous les journaux en sont pleins dans le monde entier. Eh bien, même du point de vue économique, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Parce que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le règne de ses principes d'amour, justement, des commandements de Dieu, qui mettent de l'équilibre dans la société, qui font régner la justice et la paix dans la société. Et ce n'est que dans l'ordre, la justice, la paix de la société que l'économie peut régner, que l'économie peut refleurir. On le voit bien. Prenez l'image de la République argentine. Dans quel état était-elle il y a seulement 2-3 mois? Une anarchie complète, les brigands tuant à droite, à gauche, les industries complètement ruinées, les patrons des usines enfermés et pris en otage. Que c'est une révolution invraisemblable. Dans un pays pourtant si beau, si équilibré, si sympathique que la République argentine, une République qui pourrait être d'une prospérité incroyable, avec des richesses extraordinaires, vient un gouvernement d'ordre qui a des principes, qui a une autorité, qui met un peu d'ordre dans les affaires, qui empêche les brigands de tuer les autres, et voilà que l'économie revient, et que les ouvriers ont du travail, et qu'ils peuvent rentrer chez eux en sachant qu'ils ne vont pas être assommés par quelqu'un qui voudrait leur faire faire grève alors qu'ils ne désirent pas faire grève. Voilà, c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ que nous voulons. Et nous professons notre foi en disant que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi nous voulons aussi la messe de Saint Pie V. Pourquoi? Parce que cette messe est la proclamation de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle messe est une espèce de messe hybride qui n'est plus hiérarchique, qui est démocratique, où l'assemblée prend plus de place que le prêtre. Et donc, ce n'est plus une messe véritable qui affirme la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Car comment notre Seigneur Jésus-Christ est-il devenu roi aussi? Il a affirmé sa royauté par sa croix. Regnavit a ligno Deus. Jésus-Christ a régné par le bois de la croix. Car il a vaincu le péché, il a vaincu le démon, il a vaincu la mort par sa croix. C'est donc trois victoires magnifiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, on y dira que c'est du triomphalisme. Eh bien oui, d'accord, nous voulons bien le triomphalisme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nos ancêtres ont construit ces magnifiques cathédrales. Pourquoi avoir dépensé tant d'argent pour des gens qui étaient beaucoup plus pauvres que nous? Pourquoi avoir dépensé tant de temps pour faire ces cathédrales magnifiques que nous admirons encore maintenant, même ceux qui ne croient pas? Pourquoi? À cause de l'autel. À cause de notre Seigneur Jésus-Christ, pour marquer le triomphe de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien oui, nous voulons professer le triomphe de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre messe, et c'est pourquoi nous nous agenouillons, nous aimons nous agenouiller devant la Sainte Eucharistie. Si nous en avions eu le temps, si je ne voulais pas vous retenir trop, nous aurions, avec le Saint-Sacrement, circulé dans vos rangs pour que vous manifestiez à notre Seigneur Jésus-Christ, à son Eucharistie sainte, que vous l'adorez. Seigneur, vous êtes notre Dieu. Ô Jésus-Christ, nous vous adorons. Nous savons que c'est par vous que nous sommes nés. C'est par vous que nous avons été chrétiens. C'est par vous que nous avons été rachetés. C'est vous qui nous jugerez alors dans notre mort. C'est vous qui nous donnerez la gloire dans le ciel, si nous l'avons mérité. C'est cela que notre Seigneur Jésus-Christ est présent, comme il l'était sur la croix, dans la Sainte Eucharistie. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons demander. Nous ne sommes contre personne. Nous ne sommes pas les commandos. Nous ne voulons du mal à personne. Nous voulons seulement qu'on nous laisse professer notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on nous chasse de nos églises à cause de cela. On chasse ces pauvres prêtres parce qu'ils disent la messe ancienne qui a été dite, dans laquelle ont été sanctifiés tous nos saints et nos saintes, Sainte Jeanne d'Arc, Saint-Curé d'Arc, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, ont été sanctifiés par cette messe. Et voici que des prêtres sont chassés brutalement, cruellement de leur paroisse parce qu'ils disent cette messe qui a sanctifié les saints pendant des siècles. C'est absurde. Je dirais presque que c'est une histoire de fous.
Nous demandons si nous rêvons. Pas possible que cette messe soit devenue une espèce d'horreur pour nos évêques et pour ceux qui devraient conserver notre foi. Eh bien, nous garderons la messe de Saint-Pie-V. Pourquoi? Parce que la messe de Saint-Pie-V est la messe de 20 siècles. Elle est la messe de toujours. Elle n'est pas seulement la messe de Saint-Pie-V. Et elle représente notre foi. Elle est un rempart pour notre foi. Et nous en avons besoin de ce rempart pour notre foi. Alors on nous dira, nous faisons une question de latin et de soutane. Évidemment, c'est facile de discréditer ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, n'est-ce pas, de cette manière-là. Certes, le latin a son importance. Et quand j'étais en Afrique, il était magnifique de voir toutes ces foules africaines qui avaient une langue différente. Nous avions parfois 5-6 tribus différentes qui ne se comprenaient pas, qui pouvaient assister dans nos églises à la messe et chanter les chants en latin avec une ferveur extraordinaire, extraordinaire. Allez maintenant voir, ils se disputent dans les églises. Parce qu'on dit la messe dans une langue qui n'est pas la leur, alors ils ne sont pas contents et demandent qu'il y ait une messe dans leur langue. C'est la confusion totale. Alors qu'autrefois, cette unité était parfaite. C'est un exemple. Sans doute, vous avez bien vu que nous avons lu en français l'Épître et l'Évangile. Nous n'y voyons absolument aucun inconvénient. Et même si on ajoutait encore quelques prières en français, des prières communes en français, nous ne voyons aucun inconvénient. Mais il nous semble que tout de même le corps de la messe, l'essentiel de la messe, qui va de l'offertoire à la communion du prêtre, devrait rester dans une langue unique, afin que tous les hommes de toutes les nations puissent assister à la messe ensemble et se sentir unis dans cette unité de la foi, dans cette unité de la prière. Aussi, nous demandons, vraiment, nous adressons un appel aux évêques et nous adressons un appel à Rome, qu'ils veuillent bien prendre en considération le désir que nous avons de prier comme nos ancêtres, le désir que nous avons de garder la foi catholique, le désir que nous avons d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ et de vouloir son règne. C'est ce que j'ai dit au Saint-Père dans ma dernière lettre, et je croyais vraiment que c'était la dernière, parce que je ne pensais pas que le Saint-Père m'aurait encore adressé d'autres lettres. Je lui ai dit: très Saint-Père, rendez-nous le droit public de l'Église, c'est-à-dire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez-nous la vraie Bible, et non pas une Bible œcuménique, mais la vraie Bible telle qu'était la Vulgate autrefois, qui a été tant de fois consacrée par des conciles et par des papes. Rendez-nous la vraie messe, celle qui est une messe hiérarchique, une messe dogmatique, qui défend notre foi et qui a été celle de tant et de tant de siècles et qui a sanctifié tant de catholiques. Et enfin, rendez-nous notre catéchisme suivant le modèle du catéchisme du Concile de Trente. Car sans un catéchisme précis, sans une foi précise, que seront nos enfants demain, que seront les générations futures? Elles ne connaîtront plus la foi catholique et nous le constatons déjà aujourd'hui. Hélas, je n'ai eu aucune réponse. Sinon, la suspense a diviné. Et c'est pourquoi je ne considère pas ces peines comme des peines valables. Aussi bien canoniquement que théologiquement, je pense en toute sincérité, en toute paix, en toute sérénité, que je ne puis pas contribuer par ces suspenses, par ces peines qui me sont données, par la fermeture de mes séminaires, par le refus de faire des ordinations, je ne veux pas contribuer à la destruction de l'Église catholique. Je veux que... Je veux qu'à l'heure de ma mort, lorsque notre Seigneur me demandera « Qu'as-tu fait de ton épiscopat? Qu'as-tu fait de ta grâce épiscopale et sacerdotale ?» Je ne puis pas entendre de la bouche du Seigneur « Tu as contribué à détruire l'Église avec les autres. » mes bien chers frères, je finis, je termine, et en m'adressant à vous, en vous disant, que devez-vous faire? Oh, je sais bien, beaucoup de groupes nous demandent, Monseigneur, donnez-nous des prêtres, donnez-nous de vrais prêtres, c'est ça dont nous avons besoin, nous avons la place pour le maître, nous construirons une petite chapelle, il sera là chez nous, il instruira nos enfants, oui, le vrai catéchisme, la vraie foi, nous voulons garder la foi comme l'ont fait les Japonais pendant 3 siècles lorsqu'ils n'avaient pas de prêtres. Nous voulons, donnez-nous des prêtres. Eh bien, mes bien chers frères, je fais tout mon possible pour vous en préparer, et je puis dire que c'est ma grande consolation de sentir dans ces séminaristes une foi profonde. De vrais prêtres, ils ont compris ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont compris ce qu'est le Saint Sacrifice de la Messe, les sacrements. Ils ont une foi profondément enracinée dans leur cœur. Ils sont, je dirais, mieux que ce que nous pouvions être il y a 50 ans dans nos séminaires. Parce que ils vivent justement dans une situation difficile. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont fait des études universitaires. Quand on nous jette à la figure que ces jeunes gens ne sont pas adaptés et ne seront pas parlés aux générations modernes, mais voilà des jeunes gens qui ont fait 3, 5, 7 années d'université, ne connaissent-ils pas leur génération? Pourquoi sont-ils donc venus à Écône pour devenir prêtres? C'est précisément pour s'adresser à leur génération. Ils les connaissent bien mieux que nous, bien mieux que tous ceux qui nous critiquent. Alors ils seront bien capables de parler le langage qu'il faut pour convertir les âmes. Et c'est pourquoi je suis très heureux de pouvoir vous dire cela. Nous aurons encore 25 nouvelles recrues cette année au séminaire d'Écône, malgré les difficultés. Nous en aurons 10 nouvelles à notre séminaire des États-Unis à Armada, et 4 nouvelles dans notre séminaire de langue allemande en Suisse allemande. Par conséquent, les jeunes gens, malgré les difficultés qu'on nous fait, comprennent très bien que nous formons de vrais prêtres catholiques. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas dans le schisme. Nous sommes les continuateurs de l'Église catholique. Ce sont ceux qui font les nouveautés qui partent dans le schisme. Nous continuons la tradition. C'est pourquoi nous devons avoir confiance, nous ne devons pas nous désespérer, même devant la situation actuelle, nous devons maintenir notre foi, maintenir nos sacrements, appuyer sur 20 siècles de tradition, appuyer sur 20 siècles de sainteté de l'Église, de foi de l'Église. Nous n'avons pas à craindre. Certains des reporters, quelquefois, m'ont dit, « Monseigneur, vous sentez-vous isolé ?» Je dis, « Pas du tout. » Je ne me sens pas isolé. Je suis avec 20 siècles d'Église et je suis avec tous les saints du ciel et du paradis. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié comme nous, parce qu'ils se sont sanctifiés comme nous essayons de le faire, avec les mêmes moyens. Alors je suis persuadé qu'ils se réjouissent de cette assemblée d'aujourd'hui. Ils disent au moins, voilà des catholiques qui prient vraiment, qui ont vraiment dans leur cœur ce désir de la prière, d'honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Les saints du ciel se réjouissent, vos saints anges se réjouissent. Alors ne soyons pas désespérés, mais prions et sanctifions-nous. Ah, c'est un conseil que je voudrais vous donner. Il ne faut pas qu'on puisse dire de nous, de ces catholiques que nous sommes. Je n'aime pas tellement le terme de catholique traditionnaliste, étant donné que je ne vois pas ce que peut être un catholique qui n'est pas traditionnaliste. L'Église est une tradition, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, que seraient les hommes s'ils ne seraient pas dans la tradition? Et nous ne pourrions pas vivre. Nous avons reçu la vie de nos parents, nous avons reçu l'éducation de ceux qui étaient avant nous. Nous sommes une tradition. Le bon Dieu a voulu comme ça. Le bon Dieu a voulu que les traditions se passent de génération en génération, aussi bien pour les choses humaines, pour les choses matérielles, que pour les choses divines. En conséquence, ne pas être traditionnel, ne pas être traditionnaliste, mais c'est la destruction de soi-même, c'est un suicide. Alors nous sommes des catholiques, nous continuons à demeurer catholiques, qu'il n'y ait pas de division entre nous. Précisément si nous sommes catholiques, mais nous sommes dans l'unité de l'Église, l'unité de l'Église qui est dans la foi. Il n'y a d'unité que dans la foi. Alors on nous dit, vous devez être avec le pape. Le pape est le signe de la foi dans l'Église. Et oui, et si dans la mesure où le pape manifeste son état de successeur de Pierre, dans la mesure où il se fait l'écho de la foi de toujours, dans la mesure où il transmet le trésor qu'il doit transmettre, car qu'est-ce qu'un pape, encore une fois, c'est celui qui nous donne les trésors de la tradition et le trésor du dépôt de la foi, et la vie surnaturelle par les sacrements et par le sacrifice de la messe. L'évêque n'est pas autre chose, le prêtre n'est pas autre chose. Transmettre la vérité, transmettre la vie qui ne nous appartient pas. L'Épître le disait tout à l'heure, la vérité ne nous appartient pas, elle appartient pas plus au pape qu'à moi. Il est le serviteur de la vérité, comme je dois être le serviteur de la vérité. Et s'il arrivait que le pape ne fût plus le serviteur de la vérité, il ne serait plus pape. C'est pas possible. Je ne dis pas qu'il le soit, notez bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je dis s'il arrivait que ce soit vrai, eh bien nous ne pouvons pas suivre quelqu'un qui nous entraîne dans l'erreur. C'est évident. Or, quel est le critère de la vérité? On le dit, vous jugez le pape. Monseigneur Benelli m'a jeté à la figure, c'est pas vous qui faites la vérité. Bien sûr, c'est pas moi qui fais la vérité, mais pas le pape non plus. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faut nous repenser à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, à ce que les apôtres nous ont enseigné, à ce que l'expert de l'Église et toute l'Église ont enseigné, pour savoir où est la vérité. C'est pas moi qui suis le Saint-Père, c'est la tradition.
Un enfant de 5 ans avec son catéchisme peut très bien répondre à son évêque. Si son évêque venait à lui dire « Ah, notre Seigneur n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie », c'est moi qui suis le témoin de la vérité, dirait l'évêque. C'est moi qui suis le témoin de la vérité, moi je te dis que le Saint-Sacrement, notre Seigneur n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie. Cet enfant avec son catéchisme, il a 5 ans, il lit. Il dit « Mais mon catéchisme dit le contraire ». Alors qui est-ce qui a raison? C'est l'évêque ou c'est le catéchisme? Le catéchisme, évidemment. Le catéchisme qui représente la foi de toujours. Et c'est simple comme... C'est très simple, c'est enfantin comme raisonnement. Mais nous en sommes là. Si on nous dit aujourd'hui que l'on peut faire des intercommunions et avec les protestants, qu'il n'y a plus de différence entre nous et les protestants, eh bien ce n'est pas vrai. Il y a une différence immense. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment stupéfaits quand nous pensons que l'on a fait bénir par l'archevêque de Cantorbéry qui n'est ni prêtre, parce que les ordinations légales ne sont pas valides, le pape Léon XIII l'a déclaré officiellement et définitivement, parce qu'il est hérétique, comme le sont tous les anglicans, je regrette, on aime plus ce nom-là, mais c'est quand même la réalité, ce n'est pas pour lui donner une insulte, je ne demande que sa conversion, mais et puis, que il n'est ni prêtre, il est hérétique, et on lui demande de bénir la foule des cardinaux et des évêques présents dans l'église de Saint-Paul, n'est-ce pas, avec le Saint-Père. Mais il me semble que c'est là une chose absolument inconcevable. Eh bien, donc, je conclue vous remerciant d'être venus nombreux et vous remerciant aussi de continuer à faire de cette cérémonie une cérémonie profondément pieuse, profondément catholique. Et nous prierons donc ensemble que le bon Dieu nous donne les moyens de résoudre le problème. Ce serait si simple si chaque évêque dans son diocèse mettait à notre disposition, à la disposition des catholiques fidèles, une église en leur disant « Voilà l'église qui est la vôtre ». Et ici, quand on pense que l'évêque de Lille a donné une église aux musulmans, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une église pour les catholiques. Et en définitive, toute la question serait résolue. C'est ce que je demanderai au Saint-Père. D'ailleurs, si le Saint-Père veut bien me recevoir, laissez-nous faire, très Saint-Père, l'expérience de la tradition au milieu de toutes les expériences qu'on fait actuellement, et bien qu'il y ait au moins l'expérience de ce qui a été fait pendant 20 siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien cher Monsieur l'Abbé Patrick, mes bien chers frères, ce n'est pas dans cette salle profane que nous aurions dû être réunis aujourd'hui. Nous aurions dû l'être, cher Monsieur l'Abbé Patrick, dans votre paroisse, invité par votre curé, à venir célébrer la grâce de votre sacerdoce, car s'il est une chose qui est belle, s'il est une chose qui évoque toute la beauté, la grandeur d'une paroisse, c'est bien un nouveau prêtre. Combien les fidèles habitant votre paroisse eussent été heureux de venir prier avec vous et de célébrer votre ordination. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux sont ici présents, et c'est là précisément tout le drame des cônes, comme on l'appelle. Et ce n'est pas le cas Lefèvre, comme le disent les journalistes, mais bien le cas de millions de catholiques fidèles qui veulent garder leur foi catholique, qui veulent maintenir leur tradition sainte et sacrée qu'ils ont appris de leurs parents et des générations précédentes. Ils veulent mourir comme leurs grands-parents sont morts, dans la foi catholique et romaine, et non pas dans une foi protestante. Voilà le drame que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi vous êtes aujourd'hui réunis dans cette salle et non dans la paroisse du cher Monsieur l'Abbé Patrick. Mais ça n'a pas d'importance. Comme le disait saint Athanase du temps des Ariens, vous avez les églises, nous avons la foi catholique. Vous nous chassez de vos églises, nous gardons la foi catholique et romaine, c'est cela qui importe. Et je voudrais dire quelques mots de ce sacerdoce qu'aujourd'hui vous représentez particulièrement, cher monsieur l'abbé. Oh, permettez que je rappelle quelques souvenirs. C'était il y a 6 ans maintenant. Vous veniez pour la première fois me rencontrer à la route de Marly à Fribourg, où j'avais réuni quelques séminaristes pour une première année, logés pauvrement, décemment, ayant loué quelques chambres, une petite chapelle chez les Pères Salésiens. Nous vivions là, heureux de prier notre Seigneur, heureux de vivre en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ, heureux de transmettre pour moi la foi que j'ai reçue comme fidèle, comme prêtre, comme évêque, à ces quelques jeunes gens qui m'entouraient. Et vous êtes venus nous demander de vous joindre à ce petit groupe de séminaristes, car vous aviez entendu dire qu'il y avait là-bas, à Fribourg, un séminaire qui commençait et qui avait pour but et pour intention de communiquer vraiment la grâce du sacerdoce telle qu'elle a été donnée pendant des siècles et des siècles au cours de l'Église. Et vous veniez quittant votre profession que vous aviez remplie pendant plusieurs années avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de courage. Ceux qui ont eu l'occasion de vous connaître dans votre travail ont exprimé la satisfaction qu'ils avaient de vous voir agir toujours d'une manière consciencieuse, honnête, aimable, charitable. Et vous aviez, plus que cela, débordant le cadre de votre profession, vous aviez voulu donner votre cœur, votre âme et même votre argent aux lépreux, où vous étiez attachés à ces gens déshérités et qui souffrent dans leur corps d'une maladie qu'on a peur d'approcher, qu'on a peur de soigner. Et vous êtes allés jusqu'au Cameroun visiter des léproseries, vous attachant à ces pauvres gens, parcourant l'Europe pour demander que l'on s'intéresse à ceux qui souffrent dans ces camps de lépreux. Mais le bon Dieu vous appelait à guérir d'autres lépreux, car tous les pécheurs sont des lépreux. Et c'est à cela désormais que vous irez, à ceux qui portent en eux la lèpre du péché. Et vous voici après 6 ans d'études, de travail, devenu prêtre. Et publiquement, solennellement, dans votre terre natale, vous offrez désormais le saint sacrifice de la messe. Mais qu'est-ce donc qu'un prêtre pour qu'on l'honore de cette façon? Un prêtre, mes bien chers frères, c'est celui qui représente ici-bas notre Seigneur Jésus-Christ, qui participe au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui a voulu être notre prêtre, notre sauveur, notre roi. Étant notre prêtre, il a voulu communiquer son sacerdoce à des personnes choisies par lui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit notre Seigneur à ses apôtres, mais moi qui vous ai choisi. Non vos me elegistis, sed ego elegivos. Vous avez été choisi, cher monsieur l'abbé, pour être prêtre, pour participer, mais d'une manière ontologique, d'une manière, je dirais presque physique, au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce sacramentelle que vous avez reçue le 29 juin dernier. Et c'est parce que vous êtes prêtre que vous pouvez offrir le sacrifice de la messe, que vous pouvez monter à cet autel, que bientôt, dans quelques instants, vous pourrez prononcer les paroles de la consécration et qu'à votre appel, Dieu obéira. Il vous obéira, celui qui a créé toutes choses, celui qui nous a tous créés, celui qui nous a rachetés, celui qui a lancé ces mondes dans l'espace, obéira à votre voix. Pauvre créature que vous êtes, rachetée aussi du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez prononcer les paroles de la consécration et Jésus descendra physiquement, réellement, substantiellement sur l'autel où vous offrez le saint sacrifice de la messe. Quelle grandeur, quelle splendeur de penser que le prêtre est ainsi participant au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est précisément dans le saint sacrifice de la messe que le prêtre réalise ce qui est la source de notre civilisation chrétienne. On a voulu ces derniers temps mépriser notre civilisation. Après tout, la civilisation occidentale, comme on l'appelle, qui est pourtant basée sur ces principes chrétiens, ne vaut pas mieux que les autres civilisations. Hélas, il faut bien dire que parce qu'on ne retourne plus aux sources de la vraie civilisation chrétienne, alors peut-être l'exemple que donnent ceux qui devraient être chrétiens, ceux qui devraient être les modèles du monde entier, ceux qui ont reçu le message de notre Seigneur les premiers et qui devraient être un exemple pour toute l'humanité, peut-être ne le donnent-ils plus actuellement parce qu'ils ont perdu le sens de leur foi, le sens du vrai christianisme, le sens de leur catholicisme. C'est dans la messe que nous le retrouverons, mes bien chers frères. Si nous oublions la Sainte Messe, si nous abandonnons la Sainte Messe, si nous la transformons en une espèce de meeting, si nous la transformons en une espèce d'assemblée qui n'est plus un sacrifice, alors notre Seigneur peut-être ne sera plus présent parmi nous et nous nous trouvons entre hommes. Dieu ne sera plus là. C'est précisément parce que dans le Saint Sacrifice de la Messe, les hommes s'approchent de Dieu, qu'ils s'élèvent, qu'ils se transforment et qu'ils se nourrissent de Dieu. Le plus beau geste que vous ferez dans votre sacerdoce, cher monsieur l'abbé, comme apostolat, c'est de donner la Sainte Communion. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus beau, de plus grand. Vous ne pouvez rien donner de plus riche, de plus sanctifiant, de plus enrichissant pour ceux que vous aimez, pour vos fidèles, que de leur donner notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le comprenons-nous, mes bien chers frères? Comprenons-nous qu'à la Sainte Communion, nous nous unissons à Dieu lui-même, à notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà la source de la civilisation chrétienne. Par le Saint Sacrifice de la Messe, Jésus se manifeste comme notre Sauveur. Il réalise notre salut par le sacrifice de la Messe. Il accomplit son sacerdoce par l'intermédiaire de ceux qu'il a bien voulu choisir pour le agir en sa personne. Mais nous ne sommes que ses serviteurs. C'est toujours lui le prêtre, c'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui offre le Saint Sacrifice de la Messe. Et il se manifeste aussi comme notre roi, le roi de nos intelligences en nous donnant la vérité, le roi de nos cœurs et de nos volontés en nous donnant notre loi, nos commandements, les commandements qui doivent nous aider à agir selon sa sainte volonté. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ inspire aux âmes de ceux qui les reçoivent dans de bonnes dispositions. Alors, retournant chez eux, ces chrétiens qui se sont nourris du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ comprennent mieux quel est leur devoir, comment ils doivent se conduire dans la vie quotidienne, dans la vie de famille, dans la vie, dans la société civile. Voilà la source de la civilisation chrétienne. Dans la mesure où l'on ne détruit nos autels, dans la mesure où l'on détruit nos églises, dans la mesure où les prêtres ne célèbrent plus le Saint Sacrifice de la Messe, dans cette mesure-là, notre civilisation chrétienne est réduite à néant. Il ne faut plus nous étonner alors de ce qui se passe chez nous, dont nous sommes horrifiés, horrifiés, qui vont contre la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus la loi de notre Seigneur Jésus-Christ qui est observée par nos sociétés et souvent par nos familles. Voilà ce qu'est un prêtre, et c'est pourquoi le prêtre a toujours été considéré comme étant le pilier de notre civilisation, comme étant celui qui nous donne la force et le courage par la grâce de notre Seigneur, par la transformation que notre Seigneur opère dans les âmes et dans les corps. Il est à la source de la vraie civilisation chrétienne. C'est pourquoi je pense que nous ne pouvons mieux faire que de faire de vrais prêtres, de vous donner le vrai prêtre. Il n'y a pas de trésor plus grand dans la Sainte Église qu'un saint prêtre. Et combien nous souhaitons que ces jeunes prêtres qui sortent des cônes, qui sortent de nos séminaires, ressemblent à des Don Bosco, ressemblent à des saints curés d'Ars, ressemblent à des saints Jean Heuse, à des saints Vincent de Paul. Alors la société sera transformée. Alors nous vivrons vraiment chrétiennement. Il faut que vous répandiez autour de vous, cher monsieur l'abbé, chers amis, que vous répandiez la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'est le prêtre. Et parce que nous prêchons cela, parce que nous prêchons la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ces prêtres prêcheront la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous donneront le moyen de l'accomplir, cette royauté que vous appelez tous les jours de vos voeux en disant que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous le récitez tous les jours, ce règne de notre Seigneur. Parce que nous parlons de ce règne de notre Seigneur, alors on nous dit que nous faisons de la politique. Si c'est cela, faire de la politique, nous en faisons de la politique. Car nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nous. Nous ne voulons pas que des hommes règnent sur nous, des hommes qui ne croient pas, des hommes qui ne sont pas soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous trouver entre hommes. Nous voulons nous trouver avec des hommes qui croient en Dieu, qui ont une dimension divine. Ah, si nos tous nos gouvernants comprenaient qu'ils doivent être soumis à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, Rex Regum Dominus Dominantium, il est leur roi. Et s'il ne règne pas aujourd'hui publiquement, il aurait pu le faire, il aurait pu être le roi de la terre et continuer à nous régir. Mais il le sera un jour lorsqu'il descendra sur les nuées du ciel. Tout le monde aura à rendre compte à ce roi et à ce juge. Mais pourquoi ne pas être déjà soumis à notre Seigneur Jésus-Christ ? Nous voulons, nous, des chefs, des autorités, qui savent qu'elles ne rendront compte à Dieu de la gestion de leur pouvoir et de leur gouvernement. Alors nous aimons être soumis à des personnes qui ne se croient pas auteurs de tout pouvoir, qui ont tout pouvoir dans les mains. Même si ce pouvoir leur vient du peuple, le peuple n'a pas tout pouvoir, le peuple n'est pas Dieu. Le peuple peut désigner celui qui porte l'autorité, mais il ne donne pas l'autorité. L'autorité vient de Dieu. Omnis paternitas ac Deo, dit saint Paul, toute paternité vient de Dieu. Et c'est là la grandeur de l'autorité. Et c'est là ce qui fait le pouvoir vrai, véritable de l'autorité, comme de l'autorité paternelle. L'autorité paternelle vient de Dieu. Alors les enfants savent que quand ils sont soumis à leurs parents, ils sont à la fois soumis à Dieu. Comme tout cela est beau, comme Dieu a bien fait les choses, mais comme les hommes la détruisent. Que disent les communistes ? Ils disent que la religion est une aliénation. Oui, c'est vrai, la religion est une aliénation, en ce sens que nous donnons nos corps, nos âmes, notre intelligence, notre volonté dans les mains de Dieu. Nous nous aliénons pour nous donner tout entier à Dieu, tout entier à celui qui nous a créés, tout entier à celui qui nous a fait, tout entier à celui qui nous a sauvés, qui a donné tout son sang pour nous. Alors, amour pour amour, nous voulons nous donner tout entier à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous voulons nous aliéner pour être tout entier à notre Seigneur Jésus-Christ. De cela, nous sommes pleinement d'accord avec ce que disent les communistes de notre sainte religion. Et précisément, nous disons à ces amis, je dirais, enfin, qui sont dans l'erreur, nous leur disons, vous vous aliénez pour un parti, pour des hommes. Vous mettez toute votre nature, toute votre puissance, tout ce que vous avez dans les mains des hommes. Nous ne voulons pas être soumis uniquement à des hommes qui feront de nous ce qu'ils voudront. Nous ne pourrons plus penser sinon comme ces hommes pensent. Nous ne pourrons plus agir sinon comme ces hommes veulent nous faire agir. Non, nous voulons être soumis à Dieu et non point à des hommes. Mais il y a des hommes qui sont soumis à Dieu. Oui, nous voulons bien être soumis. Voilà une mauvaise aliénation. S'aliéner pour se mettre dans les mains des hommes. Et cela, ce n'est plus du tout l'ordre voulu par Dieu. Voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous voulons. Nous voulons être à notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre roi. Et le prêtre n'est pas autre chose que le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous souffrons cruellement lorsque nous pensons à tous ces prêtres qui ne veulent plus être prêtres, qui ne veulent plus se présenter comme des prêtres, qui ont peur de leur nature de prêtre. Ces prêtres qui disent « nous sommes des hommes comme les autres ». Non, non, le prêtre n'est pas un homme comme un autre. Le prêtre, par le sacrement de l'ordre qu'il a reçu, est marqué pour l'éternité du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas comme les autres. Alors c'est pour cela, précisément, que le prêtre doit se distinguer des autres. Si déjà dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des hommes qui se distinguent par leur habit, par leur tenue, pour servir la société, il est bien normal que le prêtre se distingue aussi par sa tenue pour le service de Dieu, pour le service de la société catholique, pour le service des âmes. N'en faisons pas une question de soutane, ne faisons pas une question de latin, comme on veut toujours nous dire. La question est beaucoup plus grave, beaucoup plus profonde. Nous voulons des prêtres, de vrais prêtres. Et nous sommes persuadés qu'en faisant de vrais prêtres, nous rendons un immense service à l'Église, au salut des âmes et à la société. Et c'est pourquoi nous sommes bien décidés à continuer tant que le bon Dieu nous donnera la possibilité de le faire. Et nous sommes persuadés que le bon Dieu est avec nous et qu'un jour la vérité se fera, peut-être bientôt. Des échos me viennent de Rome. Il est possible que des choses s'arrangent, que la vérité se fasse, mais nous ne voulons pas abandonner notre foi. Je suis prêt à aller m'agenouiller au pied du Saint-Père, mais non pas pour lui dire, très Saint-Père, dites-moi de me faire protestant, demain je suis protestant. Jamais. Il n'est pas possible que ce que le bon sens, ce que le sens de la foi vous fait dire et vous fait penser, mes bien chers frères, pourquoi vous êtes réunis ici, parce que votre foi vous fait comprendre, l'instinct de votre foi vous fait penser que ce que vous allez, ce à quoi vous allez assister, c'est le vrai sacrifice de la messe, que la communion que vous allez recevoir dans quelques instants, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ que vous allez recevoir. Alors vous venez. Même si votre évêque n'est pas content, même si votre évêque vous demande de ne pas vous rendre dans ce lieu, vous avez tellement ce sentiment de la vérité, de désirer notre Seigneur Jésus-Christ, que vous venez quand même, persuadé qu'un jour la vérité se fera, que les évêques comprendront. Lorsque leurs églises seront vides, lorsqu'ils n'auront plus de prêtres, que feront-ils? Nous avons récemment encore... Monsieur le directeur du séminaire qui est ici présent me disait que depuis un mois, tous les jours, nous avons une nouvelle demande de vocation pour le séminaire. Qu'est-ce que ça signifie? Que ces jeunes gens qui ne savent plus où aller pour devenir prêtres viennent vers nous parce qu'ils sentent qu'il y a dans ce séminaire une formation réelle, profonde, qui est donnée, une formation surnaturelle, telle que nous l'avons reçue. Tous les prêtres qui ont plus de 50 ans. Il y a 15 ans, nous n'aurions jamais eu l'idée de faire une cérémonie ici pour une première messe. Nous aurions fait cette cérémonie peut-être à la cathédrale et tout le monde s'en serait félicité. Exactement la même cérémonie que nous faisons aujourd'hui. Et la cérémonie qui s'est faite pendant des siècles et des siècles. Et voici tout à coup que nous faisons exactement la même chose que si c'est fait pendant des siècles, et que nous sommes chassés, que nous sommes considérés comme des renégats, que nous sommes considérés comme des excommuniés. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans l'Église. Oui, un changement s'est passé dans l'Église. Quelque chose d'anormal s'est passé dans l'Église. L'ennemi est entré. Inimicus homo hoc fecit, dit notre Seigneur à ceux qui ont semé dans le champ du bon grain et qui, quelque temps après, s'aperçoivent qu'au milieu du bon grain, il y a énormément d'ivraies. Et ils se retournent vers le propriétaire du terrain et se disent « Mais comment se fait-il? Nous avons semé du bon grain et voici qu'au milieu du bon grain, il y a beaucoup d'ivraies. Comment ça peut se faire ?» Et le maître répond « Inimicus homo hoc fecit. L'ennemi l'a fait ça. Il est venu pendant la nuit, il a semé de l'ivraie. L'ennemi est à l'intérieur de l'Église. Il est là, il veut la détruire. Et il sait parfaitement que le meilleur moyen de la détruire, c'est de détruire le sacerdoce.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur le Recteur, chers Messieurs les professeurs, chers amis étudiants, mes bien chers frères, nous avons entendu ce matin, avec beaucoup d'émotion et d'admiration, le discours d'ouverture des facultés par Monsieur le Recteur. Il nous a tracé d'une manière admirable le combat que mène l'esprit de l'erreur contre l'esprit de vérité. C'est notre Seigneur lui-même qui a dit de Satan qu'il était le père du mensonge et que lorsqu'il mentait, il s'exprimait selon sa propre nature, selon son propre fond. Cette opposition entre la vérité et l'erreur dure depuis que Satan a réussi à faire communier dans cette erreur nos premiers parents. Et nous, nous sommes pris dans ce combat à la fin de ce 20e siècle. Mais nous vivons des circonstances tout à fait particulières. L'histoire nous montre que ce combat a été douloureux, pénible, particulièrement depuis 4 siècles. Mais nous assistons, en cette fin du XXe siècle, à un phénomène auquel nous n'aurions jamais cru pouvoir assister. Le chef de l'Église, les cardinaux, responsables de la curie romaine, des évêques, croient qu'en flattant l'erreur, ils pourront mieux la combattre. Ils s'imaginent qu'en prêtant l'oreille à ceux qui combattent notre Seigneur, qui est la vérité, ils auront plus de facilité pour faire régner notre Seigneur. Et nous savons bien que ce combat que nous appelons le combat des libéraux est un faux combat. Il a été condamné par les papes tout au cours du 18e et du 19e siècle. Et ainsi, nous nous trouvons entourés de personnes qui, le voulant ou ne le voulant pas, trahissent l'Église. La liberté religieuse, l'œcuménisme sont sortis des officines maçonniques. Et voici que ceux qui devraient défendre la vérité défendent ces mêmes principes. Et alors, les conséquences en découlent, qui sont la négation de la vérité, la négation du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous en voyons tous les jours les conséquences de plus en plus épouvantables, horribles. Nous l'avons vu à l'occasion du débat scolaire qui d'ailleurs a bien dépassé les limites de notre cher pays. Nous le voyons bien. Au cours de ce débat, ces vieux principes qui sont faits pour détruire l'Église sont remis en honneur. Le culte de la déesse raison n'est pas terminé. Mais vous avez remarqué que M. l'abbé Simoulin, à l'occasion de son discours, nous a laissé entendre à la fin qu'il nous fallait nous tourner vers notre baptême. Mais c'est précisément, je voudrais apporter quelques précisions, quelques conclusions, je dirais, de cette évocation de notre baptême pour montrer qu'il y a irréductibilité entre cet esprit des gnostiques, cet esprit des faux philosophes du XVIIIe siècle, cet esprit scientiste, naturaliste, rationaliste est l'esprit de l'Église. Et alors que ceux qui s'imaginent aujourd'hui hommes d'Église pouvoir défendre l'Église en passant à l'ennemi, vient livrer l'Église aux ennemis. Ils canonisent notre mal. Nous ne pourrons jamais nous entendre. Ils disent que la nature est bonne et que par conséquent, toutes nos maladies sont des signes de santé. Nous, au contraire, nous allons vers le médecin de nos âmes. Et l'Église nous encourage à aller vers le médecin de nos âmes, qui est notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix. Et précisément, sur son calvaire, avec ses blessures, avec sa passion, avec son sang qui coule, pour racheter nos âmes, pour nous guérir de nos blessures. Il est à notre disposition tous les jours, dans son sacrifice qu'il nous laisse, dans toutes ses blessures ouvertes, dans son cœur ouvert, ses mains transpercées. Il nous donne le remède. Et alors nous sommes heureux d'aller nous confesser pour recevoir le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, de laver nos âmes dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes heureux de communier pour recevoir le sang de Jésus et sa force comme remède pour nos âmes. Nous en avons besoin. Bien, chers frères, cela explique toute l'histoire de l'Église. Toutes les luttes que l'Église a engagées ont été faites précisément pour nous protéger contre nous-mêmes et contre les ennemis de nos âmes. On a supprimé dans les psaumes qui signifiaient le combat contre les ennemis, dans cette fameuse Bible œcuménique. On ne veut plus combattre, soi-disant, parce qu'il n'y a plus d'ennemis. On n'a donc pas besoin de combattre au XXe siècle puisqu'il n'y a plus d'ennemis. Alors que jamais l'Église n'en a eu autant. Jamais nous n'en avons eu autant qu'aujourd'hui. Par tous les moyens que Satan a à sa disposition et que les francs-maçons ont à leur disposition pour corrompre l'humanité. En ces temps si difficiles, si douloureux, où l'erreur règne partout, partout, dans toutes les législations, dans le monde entier, par tous les moyens de communication, l'erreur est diffusée. Le mal se répand et nous avons été choisis pour maintenir la vérité, pour maintenir le flambeau de la vérité contre l'erreur, maintenir le flambeau de la sainteté contre le vice, maintenir la civilisation chrétienne contre la civilisation de l'erreur et du désordre. Remercions Dieu et demandons aujourd'hui à celle qui n'a pas connu cette fomes peccati, qui n'a pas connu ces blessures de la nature, et qui précisément est un objet d'horreur pour ces fauteurs du mensonge qui exaltent la nature. Car la vraie nature, celle qui avait toutes les vertus naturelles et toutes les vertus surnaturelles, c'est la Vierge Marie. Heureux d'avoir cet exemple magnifique que le bon Dieu mais devant nos yeux, cette Vierge toute pure, eh bien, demandons-lui, au cours de cette année qui va se dérouler pour les facultés Saint-Pédis, eh bien, que cette année soit mise sous sa protection, comme toujours, qu'elle soit la reine de nos intelligences, qu'elle soit la reine de nos cœurs, et qu'elle sauve nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.